Comme à chaque lundi, c'est la chronique LNH avec Antoine Roussel des Canucks de Vancouver. Salut Antoine!
Salut Marc, comment ça va?
Ben ça va bien, puis écoute, j'imagine que ça va bien pour toi, parce que avant qu'on parle de la situation du Canadien un peu, t'as renoué avec l'action, deux matchs t'as joué contre Toronto d'ailleurs en fin de semaine, une passe dans ce match-là. Comment ça a été le retour en Ligue américaine?
Ben écoute, ça a été le premier match un petit peu plus difficile, surtout au niveau du cardio. Et puis après ça, ben je trouvais que ça allait vraiment vite le jeu et tout ça. Mais à partir du deuxième match, je sentais de mieux en mieux et j'étais capable de faire de plus en plus de jeux offensifs aussi. C'est sûr que je suis pas encore là où je voudrais l'être, mais je m'en rapproche tranquillement.
Là, tu as été rappelé par les Canucks, là, parce que c'était seulement... Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, coudonc, ça fait que Roussel est dans la Ligue américaine. Il a-tu été cédé dans la Ligue américaine parce qu'il est plus assez bon? Ben, c'est du conditionnement, là.
Ben, exactement. Là, c'est, le plan en arrière tout ça, c'était de me faire jouer des matchs, un petit peu de genre camp d'entraînement. Et puis, comme ça, je puisse arriver dans la Ligue nationale. Et je perds pas deux matchs en essayant de me repréparer et en essayant de retrouver le niveau aussi, là. Donc, je trouve que ça a été un bon pas dans la bonne direction en faisant cette étape-là.
As-tu été surpris par le calibre?
Écoute, oui. Là, puis, je trouvais ça vraiment intéressant d'y retourner là, parce que, comme je le disais, quand on joue dans la Ligue nationale, on oublie à quel point c'est difficile dans la Ligue américaine. Puis, à quel point, si on est chanceux de jouer dans la Ligue nationale, on a tout, il y a des repas tout le temps. On est des bébés gâtés. Puis, dans la Ligue américaine, c'est plus compliqué. Et écoute, j'étais vraiment content de revoir ça. Puis ça m'a redonné un coup au moral pour me dire que let's go, encore une coupe d'année dans la Ligue nationale.
Antoine, au Québec présentement, le diable est aux vaches en bon français. Les partisans du Canadien veulent la tête de Julien, veulent la tête de Bergevin. On veut échanger tout le monde. On veut le retour de Patrick Roy comme coach et DG. Ça, c'est Simon Tremblay qui demande ça haut et fort.
Ah oui, je suis surpris. D'habitude, il y a des propos plus mitigés, Simon.
Ben là, c'est Simon. Hein? Écoute, Antoine, tu connais l'amour de Simon pour la famille Roy. Là. T'es pas surpris, j'espère.
Non, je suis pas surpris.
Non. Rappelons que, juste pour mettre des auditeurs dans le coup, que Simon était convaincu que Frédéric Roy allait atteindre la LNH. Là.
Écoute, chaque personne a le droit à son opinion au hockey.
Tout à fait, c'est la beauté de la chose. Mais Antoine, écoute, tu coupes les Canucks, je le sais, là. Mais qu'est-ce que tu penses de la situation à Montréal? 8 défaites de suite, puis on voit pas bien la lumière au bout du tunnel. Là.
Ben écoute, c'est premièrement, là, quand tu as une situation comme ça, les joueurs, faut vraiment qu'ils se regroupent, puis qui se regroupent et qui mettent tous les efforts qu'ils sont capables de faire dans la bonne direction. Et la prochaine victoire va tellement être difficile à aller chercher. Là. C'est toujours celle-là. On dirait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu te fais marquer en premier dans une situation comme ça. Ben là, tu te dis « Oh, crème, on va encore en perdre une autre. » Puis ça va être de plus en plus difficile. Mais je suis convaincu qu'ils vont regagner des matchs. Là. Ils ont beaucoup trop de talent dans ce vestiaire-là. Et puis... pour revenir à la situation que tu me parlais, ils réclament des têtes. Ben, moi, je pense vraiment que les gens sont beaucoup trop émotifs. Là. Et puis, quand tu es émotif, quand tu gères ton équipe, ben, généralement, c'est là que tu fais des erreurs. Puis, Marc Bergevin, c'est un bon GM. Et puis, Claude Julien, c'est un très bon coach aussi. Donc, ils vont s'en sortir. Puis, nous autres aussi, les Canucks, on est passé par là en début de saison. On a eu un gros, gros, gros début de saison. Puis après ça, là, pendant une séquence de 10 matchs, on a gagné une game, on en a perdu 8, on en a perdu une en prolongation. Puis ben là, ça s'est remis. La tendance est plus soit t'es vraiment hot ou soit t'es vraiment cold. Puis ça, on le voit pour toutes les équipes dans la Ligue.
Parce que de ton expérience, Antoine, changer de GM et changer de coach en plein milieu de saison comme ça au mois de décembre, ça donne pas des grands résultats à court terme, là.
Ben, je pense pas qu'ils sont sur le bouton panique tant que ça. Là. Je te dirais, si ça fait encore un autre 10 games comme ça, peut-être qu'ils vont la trouver moins drôle aussi. Là. Mais j'ai hâte de voir aussi quel genre de caractère aussi dans cette chambre-là, parce que souvent, c'est ça qui te sort du pétrin. Puis je suis convaincu qu'ils ont plein de gars de caractère. Là, juste aller voir jouer et puis jouer contre. C'est une équipe qui ne se laisse pas mener.
On donnait cet exemple-là que Patrick Roy débarque derrière le banc du Canadien, que la foule va être craquée comme ça se peut pas parce que c'est une légende du Canadien, Patrick Roy, que les joueurs n'auront pas le choix d'en donner plus. C'est vrai ça ou ben, ça dure juste un temps ou ben, ça peut marcher à long terme d'après toi?
Ben écoute, quand tu changes de coach, généralement, tu as toujours une séquence de 10 matchs où les joueurs, ils se donnent au maximum, Parce que quand je te l'expliquais la semaine passée,
ouais.
quand tu changes d'entraîneur, ben là, t'as toujours 6 joueurs qui en profitent et 6 joueurs qui sont perdants. Donc dans cette situation-là, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont être gagnants par rapport à ça.
On a parlé des coachs, Antoine, la semaine dernière, et là, bon, la décision est tombée également. Bill Peters n'est plus l'entraîneur-chef des Flames de Calgary. Les Flames, que tu connais bien, l'équipe qui est quand même rivale à la vôtre. Là. Dans le cas de Bill Peters, il est sorti des choses spéciales là-dedans, là, qui a frappé ses joueurs, certains de ses joueurs physiquement. Ça a même été corroboré par Rod Brind'Amour du temps où il était adjoint avec lui en Caroline. Un coach qui frappe des joueurs, Antoine, as-tu déjà été témoin de ça?
Frappe des joueurs, non. Mais pour revenir sur cette situation-là, je trouve quand même que c'est quand même inacceptable, tu sais, de tenir des propos racistes envers ses joueurs. Et puis, ça n'a vraiment pas sa place dans le hockey. Maintenant, on s'entend que donner un coup de pied, là, on s'entend, si c'est pas un coup de pied à la Georges Saint-Pierre, c'est pas la fin du monde de se faire donner un coup de pied dans le cul pour décoller le match. Tu sais, on s'entend que on ne sait pas quelle intensité ce coup de pied-là c'était, mais moi j'ai déjà vu un coach donner un coup de pied dans le cul à un gars, dire oh, réveille-toi, là, la game est commencée, puis c'est pas la fin du monde, là, ça fait partie du hockey. Puis généralement, ces joueurs-là qui ont besoin de se faire donner un coup de pied dans le cul, là, c'est pas les joueurs les plus intenses de ton équipe. Puis au final, c'est jamais les joueurs qui arrivent aux grands honneurs ou qui vont loin avec leur carrière parce qu'ils ont toujours besoin de se faire donner un coup de pied dans le cul, ils sont pas capables de se le donner eux-mêmes. Donc, faut prendre vraiment cette situation-là avec un grain de sel, je pense.
Ouais. On a parlé de propos racistes, là, que Bill Peters a traité un de ses joueurs de, on va dire le mot, le nigger. Question pour toi, en tant que joueur, Antoine. Supposons que sur la glace, un joueur blanc en traite un autre de nigger. Est-ce que puis l'arbitre entend ça? C'est une punition automatique, ça? Ou ça peut être permis? Comment ça marche, ça?
Ben, écoute, Marc, tu me prends de court. Là, je pense que ça n'arrivera jamais. Là. Puis c'est pas, je pense que les gars s'écœurent d'une autre façon à ce moment-là. Là.
Ben, c'est une bonne nouvelle. Je sais que dans le passé, c'est déjà arrivé. Là, mais si tu me dis que tu n'as pas été témoin de ça dans la LNH, c'est quand même, on va prendre ça comme une très bonne nouvelle. Là.
Ah ben non, c'est sûr. Les gars s'écœurent sur d'autres affaires. Puis c'est vraiment, là, on le sait que vraiment sur des insultes racistes ou homophobes, ben, c'est une punition automatique. Puis après ça, tu sais que tu peux être suspendu et des affaires comme ça. Ben, on l'a vu avec El Joucha il y a une couple d'années.
C'est vrai.
Donc, faut quand même être très prudent malgré que des fois, on ait été motif. Et puis, c'est pas des propos quoi, qui ont leur place aussi. Là.
Pour revenir sur les entraîneurs, Antoine, Mike Babcock, la semaine dernière, on a appris qu'il avait demandé une liste à Mitch Marner, alors qu'il était très jeune, de savoir c'était qui les meilleurs leaders, selon lui, du meilleur au pire. Là. C'est une situation assez spéciale pour un jeune de cet âge-là, à 19 ans seulement. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben exactement. Mais en plus, c'était les gars qui travaillaient le plus fort dans son équipe aux gars qui travaillaient le moins fort dans son équipe. Ouais. Fait que lui, il a fait la liste, il a écrit la liste, il l'a donnée à son coach. Et puis, lui, ben il l'a embarrassé devant toute l'équipe. Il a sorti la liste puis il lui a dit, regardez, c'est ça que Mitch il pense de vous autres. Moi, j'ai tellement trouvé ça un manque de respect là, envers son joueur. Puis en plus de ça, tu sais que tu peux plus jamais faire confiance à ce coach-là. Là. Dans n'importe quelle équipe qui va aller, tu sais que tu pourras plus jamais lui faire confiance. Et c'est sûr et certain que Marner, tu sais, les gars l'aimaient tout ça, mais les Leafs ont été excessivement chanceux qu'ils se retrouvent pas blessés après une pratique. Là. On se rappelle que c'est courant dans les équipes dans le passé qu'il y ait des batailles dans les pratiques. Là. Maintenant, on en voit de moins en moins des affaires comme ça, là, mais dans le temps, au début des années 2000, ou juste un petit peu avant que j'arrive dans les nationales, c'était commun. Là. Donc, les Leafs ont été chanceux que Marner se fasse pas blesser par un gars qui était pas content de sa façon de penser. Et puis, j'ai été vraiment très, très surpris de ça.
Est-ce que les joueurs entre vous...
Après ça aussi.
Oui, ben Antoine, c'est-tu quelque chose que vous parlez, les joueurs entre vous autres également, de Babcock, puis wow, c'est pas fort.
Ben, écoute, c'est sûr que des histoires comme ça, ben, tu sais, moi, j'en ai déjà entendu, tu sais. Par exemple, l'histoire de Mike Modano, il y a quelques années, Mike Modano, il devait jouer sa 1500e game. Mm. Et il jouait pour Détroit, c'était sa dernière saison de hockey. Et il restait à peu près 5 games à jouer, puis pour qu'il obtienne sa 1500e game. Mike Babcock l'a retiré de l'alignement pour les 5 derniers matchs puis il a fini sa carrière à 1499.
Terrible.
C'est terrible, tu sais. Fait que de là, ça tend un petit peu le personnage, et puis tu sais, il s'en fout vraiment. Et je pense qu'au final, ben, tes joueurs, le mot se passe au sein de la ligue, que c'est pas forcément le plus respectueux, là, donc je te dirais. Là.
Ah, c'est terrible. Ce gars-là avait une réputation pourtant incroyable il y a quelques années à peine, puis ça a vraiment tombé bas, là, comme on dit. Là.
Ben, c'est sûr que, tu sais, ça fait mal. Le mot se passe. Tous les joueurs se parlent. Quand tu changes d'équipe, hey, comment il est ce coach-là? Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de son système de jeu? Comment il traite ses joueurs et tout ça? Mais aussi, il faut faire attention parce que il y a une couple d'années aussi, là, je ne sais pas si tu te rappelles, Dale Weiss, il était sorti dans les médias quand il jouait à New York. Puis Tortorella était le coach. Puis il était sorti quand Tortorella s'était fait congédier de New York en disant « Oh, ce gars-là, c'est vraiment pas un bon coach. Il est mauvais, blablabla, blablabla. » Dale Weiss se fait échanger à Vancouver. Qui signe pas à Vancouver comme coach? John Tortorella. Oh. Je te dis que des fois, il faut garder sa langue dans sa poche et puis faire attention à ce qu'on dit parce que le milieu du hockey, c'est un milieu aussi très fermé et vieille école. Donc, il faut quand même faire attention.
De ce que tu entends, Antoine, de John Tortorella, parce que moi, il m'a impressionné l'an passé avec Columbus. Je trouvais qu'il avait peut-être adapté son style un peu plus avec les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un coach pour qui tu aurais peur de jouer ou tu dis, ben tabarouette, non, pas tant que ça finalement?
Je sais pas vraiment quoi en penser. Je sais que c'est un coach qui est difficile, puis en même temps il va te dire la vérité. Là, c'est puis des fois, ben la vérité est dure à entendre pour beaucoup de gars. Donc tu sais, au final, l'important c'est ton coach, tu veux gagner, toi tu veux gagner. Mmh. Et si te faire dire la vérité, ça te permet de gagner, ben moi ça serait la meilleure solution. Donc je pense que j'aurais tendance à penser que c'est la bonne façon de faire. C'est sûr que des fois on peut dire la vérité de toutes sortes de façons, et puis peut-être qu'il s'est amélioré aussi dans cet aspect-là, parce que de ce que j'entendais dans le temps, c'était quelqu'un d'extrêmement difficile.
Tu voulais me parler de Dan Carcillo également, qui a fait une sortie la semaine dernière, là.
Ben écoute, moi j'ai mon coéquipier Brandon Sutter, son père c'est le coach de Red Deers ou d'une équipe dans la WHL, ouais. Et il est sorti sur Twitter en disant plusieurs menteries, et puis il disait qu'il y avait des joueurs qui avaient été victimes d'abus sexuels pendant des parties des recrues, et tu sais c'était, et puis il avait publié une photo avec son tweet qui était complètement fausse. C'était pas cette équipe-là, c'était d'autres gars. Fait qu'il avait mélangé plusieurs histoires pour attirer l'attention. Puis c'est ça que j'ai trouvé ça dommage un petit peu finalement quand toutes les affaires sont sorties sur les coachs la semaine passée. C'est que il y a beaucoup de choses qui se sont dites, et c'est beaucoup de choses qui se sont dites par beaucoup de joueurs qui ils sont pas forcément allés loin, ou tu sais qu'on pas eu beaucoup de succès, puis qui essaient de rejeter aussi la faute sur quelqu'un d'autre. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu limite par moment, ces révélations.
Antoine Roussel, toujours un plaisir. Puis écoute, tu joues quand là?
Je joue probablement demain contre Ottawa, et ça va être la game contre la game où Alex Burrows, mon idole, se fait introniser au temple de la renommée des Canucks. Il s'appelle ça le Ring of Honor. Il retire ouais. pas son chandail, mais c'est tout comme. C'est qu'il est en ville, et mon retour au jeu, le timing est parfait. J'espère que je vais en jouer toute une, et je vais essayer de lui scorer un but là, parce que sans ce gars-là, c'est sûr que je n'aurais pas atteint ce niveau-là, puis je lui dois tellement que j'ai le goût de jouer une grosse game pour lui.
Ben là, Antoine, tu m'intrigues, là. On va étirer le temps un peu, là. Pourquoi? Tu l'as connu à quel moment, Alex Burrows?
Ben, Alex Burrows, moi, je l'ai rencontré un de mes premiers étés d'entraînement avec Stéphane Dubé, après ma première saison pro. Il fallait que je change d'environnement, puis il fallait que je sois entouré de joueurs qui jouent dans la Ligue nationale. Parce que j'avais peut-être un manque de confiance en moi, puis aussi je voulais vraiment être entouré des meilleurs. Fait que j'ai été allé avec Stéphane Dubé m'entraîner, et Alex était là, puis il m'a tout de suite pris sous son aile, et il a vraiment été fantastique. On cherchait toujours des moyens de s'améliorer, il me poussait beaucoup, et même à un moment donné je voulais améliorer mon lancer, et je lui en parlais, et puis j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là, et il était arrivé avec une toile, avec des cibles, puis il me l'avait offerte. Et il m'a dit, tiens, tu t'entraîneras avec ça, puis tu essaieras d'être meilleur. Puis sans contexte, c'est sûr que je joue dans la Ligue nationale une petite part grâce à lui.
Est-ce que, dans le fond, peut-être que Burroughs voyait un jeune Alexandre Burroughs en toi, parce que vous avez le même cheminement un peu, vous avez commencé le junior un peu sur le tard, vous n'avez pas été repêché ni un ni l'autre, ça a été le grand chemin pour atteindre la grosse ligue, là.
Ah ben écoute, ça, il faudrait que tu lui demandes à lui, mais c'est ça que moi, je me suis beaucoup inspiré de lui, puis de la façon dont il travaillait, son éthique de travail l'été aussi, à se faire pousser. Écoute, j'ai été très choyé, moi, dans mes entraînements l'été. Je m'entraînais avec Alex Burroughs, Daniel Zubrus, Pascal Dupuis. Et puis, c'était des gars qui poussaient là, vraiment là, à tous les jours. Là. Il n'y a jamais un gars qui arrivait en retard. Ça arrivait toujours 45 minutes avant l'entraînement. Ça s'entraînait, ça s'étirait. Puis, dès qu'il était 10 heures, là, c'était game on, là, ça s'entraînait. Même que des fois, là, les gars, ils se parlaient entre eux autres parce que moi, je voulais toujours être le premier. Je voulais toujours les battre. C'était ça mon objectif. J'arrivais le matin, là, je me disais, là, il faut que je sois meilleur que tous les autres, là, en poids ou whatever. On s'entend que Zubrus, je ne pouvais pas lever autant que lui, là, mais pour tout le reste, c'était mon objectif. Et à un moment donné, on faisait de la course à l'extérieur et puis on faisait des sprints. Il fallait faire 10 sprints d'à peu près 80 mètres. Puis on faisait des sprints. Fait que moi, j'étais le premier. Je courais, puis là, Alex Burroughs, il était dans le tapis à fond, il était juste à côté de moi. Fait que là, moi, je poussais la machine jusqu'au bout. Le sprint d'après, c'est Zubrus. Le sprint d'après, là, c'était Pascal Dupuis. Puis ils se sont interchangés le lead comme ça. Mais moi, je poussais tellement la machine au maximum que j'avais de la misère. Je commençais à avoir de la misère à suivre. Qu'à la fin des 10 sprints, je me suis mis sur le bord d'un building. Je vomissais. Puis Pascal Dupuis, il est passé à côté de moi. Puis il a dit, tu sais, Antoine, il y a une raison pourquoi tu joues sur la quatrième ligne. Tu n'es pas capable de suivre. Puis il m'écœurait de même.
Hey, c'est bon. Écoute, Antoine, un gros merde pour demain. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Antoine.
Hey, ça fait plaisir. À bientôt. Bye-bye.